VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est midi à Kinshasa. Bonjour à tous, bienvenue. Les autorités de la RDC ont autorisé l'opposition à tenir une réunion publique pour la première fois depuis septembre 2016, ce mardi, à l'occasion d'une date à marquer d'une pierre blanche en République démocratique du Congo, donc le 28e anniversaire des débuts du multipartisme. À 8 mois donc de la présidentielle, le parti historique d'opposition Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, va se rassembler à Kinshasa autour de son président candidat Félix Tshisekedi, qui accusait récemment le président Joseph Kabila d'avoir instauré une dictature semblable à celle qui prévalait en 1990 sous le maréchal Mobutu Sese Seko. Au Cameroun, le Social Democratic Front, le SDF, le principal parti d'opposition, estime que la grave crise qui secoue les deux régions anglophones du pays a dégénéré en guerre civile ouverte. Le point, Marie Benson.
Le SDF a déclaré que la violence dans les régions anglophones du sud-ouest et nord-ouest a dégénéré en guerre civile. Le parti de John Fundi accuse le régime de Yaoundé d'avoir marginalisé les populations anglophones. Joshua aussi, son candidat à l'élection présidentielle prévue fin 2018, demande au président Paul Biya de mettre fin à la guerre qui a déjà fait trop de victimes. Depuis plusieurs mois, au moins 30 militaires et policiers ont été tués. Vendredi dernier, un convoi du gouverneur de la région du sud-ouest a été attaqué. Des séparatistes réclament l'indépendance des parties anglophones qu'elles ont symboliquement proclamées en Bazonie. L'armée massivement déployée a été accusée de plusieurs extractions. Ces régions ont un besoin grandissant d'aide humanitaire, mais l'accès est difficile pour les ONG.
L'ancienne présidente du Malawi, Joyce Banda, qui est accusée d'être impliquée dans un gigantesque scandale de corruption et vit en exil depuis 2014, doit rentrer dans son pays. Ce sera samedi, a annoncé lundi son porte-parole. Joyce Banda va réorganiser son parti après 4 ans d'absence, au cours desquels des membres clés du Parti démocratique progressiste, le DPP, dont son vice-président, Ouladi Moussa, ont quitté la formation. Le retour de l'ancienne présidente intervient à 1 an des élections législatives et présidentielles prévues en 2019. Au Sénégal, la polémique continue d'enfler au sujet de la nouvelle loi sur le parrainage politique. Malgré les fortes contestations de l'opposition et de nombreux troubles dans la capitale, le Sénégal a adopté à l'Assemblée nationale la fameuse loi. Avec cette loi sur le parrainage, il faudra désormais recueillir 52 000 signatures de citoyens pour espérer être candidat à la présidentielle sénégalaise. L'opposition accuse le pouvoir d'épuration des potentiels candidats à la présidentielle avec l'emprisonnement des principaux challengers, mais aussi et surtout le vote d'une loi sur le parrainage des candidats à la présidentielle. Des appréhensions jugées légitimes par le directeur exécutif d'Amnesty International, Seydi Gassama, estime que le timing choisi par le pouvoir pose problème.
Mais maintenant, attendre à moins d'un an des élections pour proposer une nouvelle réforme, même si cette réforme n'est pas mauvaise en soi, il pose problème. Parce que la classe politique ne s'y attendait pas. La classe politique considère que le temps qu'il aurait imparti pour pouvoir satisfaire cette nouvelle exigence du code électoral, n'est-ce pas, est extrêmement limité. Et qu'il y a d'autre part beaucoup de pièges et des pièges réels avec cette affaire de parrainage.
Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International. Visite d'État du président français aux États-Unis après de chaleureuses retrouvailles et un dîner entre couples. Donald Trump et Emmanuel Macron vont tester leur amitié aujourd'hui en discutant des sujets qui les divisent, en tête l'accord sur le nucléaire iranien et la guerre commerciale. Les deux hommes auront notamment un entretien d'une demi-heure en tête-à-tête. Après les entretiens à la Maison-Blanche et une conférence de presse commune, le Français ira déjeuner avec le vice-président Mike Pence et John Sullivan, le patron par intérim de la diplomatie américaine. Puis il va assister à une cérémonie au cimetière militaire d'Arlington.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Le 41e président des États-Unis, George H.W. Bush, âgé de 93 ans, a été hospitalisé dimanche pour une infection qui s'est diffusée dans le sang, atteint de la maladie de Parkinson qui le contraint à se déplacer depuis plusieurs années en fauteuil roulant. Il avait assisté samedi à Houston aux funérailles de son épouse depuis 73 ans, Barbara Bush. Le leader nord-coréen Kim Jong-un fera vendredi un geste historique en se rendant pour la première fois au Sud pour un sommet avec le président Moon Jae-in qui vise à concrétiser les espoirs de paix entre les deux voisins suite au rapprochement diplomatique du début de l'année. Le devenir de l'arsenal atomique de Pyongyang devrait être au cœur des discussions entre les deux hommes qui pourraient aussi aborder la question d'un traité de paix pour mettre formellement un terme à la guerre de 1950-1953. Ce sera du reste la première fois qu'un dirigeant nord-coréen met le pied au sud depuis l'armistice signé il y a près de 65 ans. Les deux premiers sommets intercoréens en 2000 et 2007 avaient eu lieu à Pyongyang. Cette rencontre à Panmunjom, le village de la trêve, doit ouvrir la voie à un sommet encore plus attendu quelques semaines plus tard entre M. Kim et le président américain Donald Trump. Maintenant, le dossier de ce journal avec les fake news, le terme fake news ou si vous préférez fausse nouvelle est une expression qu'on entend beaucoup ces temps-ci, surtout si vous suivez par exemple le président Donald Trump sur Twitter ou d'autres politiciens aux États-Unis et à travers le monde. Des lycéens tentent de comprendre le concept en apprenant les bases du lexique des médias. Un récit d'Abdoud Ramandia.
Nous sommes au lycée Wakefield d'Arlington, en Virginie. Ces lycéens apprennent à identifier les fake news. Le professeur de sciences sociales, Patricia Hunt, offre un cours de digital appelé Checkologie. Elle en profite pour donner à ses étudiants des exemples concrets d'informations qui sont soit factuelles, soit mal informées, soit tout simplement fausses. Prenons l'exemple de la récente fusillade de Parkland en Floride, dans laquelle 17 personnes ont été tuées. Elle a demandé aux élèves d'examiner toutes les rumeurs qui ont circulé après l'incident et de lui dire si elles sont vraies ou pas.
On bombarde les élèves d'informations. On les bombarde aussi de soi-disant nouvelles, de fake news, de rumeurs devenues virales ou trompeuses. J'espère qu'à travers mes leçons, ils vont pouvoir discerner le journalisme de qualité, des informations non équilibrées, fausses, de la propagande ou de quelque chose de ce genre.
Les études montrent que les adolescents s'informent principalement à travers les réseaux sociaux et ils ont plus tendance à croire les informations qu'ils reçoivent de leurs amis. Alan Miller est le fondateur de l'ONG News Literacy Project.
J'ai vraiment été frappé par le fait que les élèves ont tendance à croire que toutes les sources d'information se valent. Si vous êtes plus jeune, vous pensez qu'une info est sur Internet parce qu'elle était vérifiée et donc vraie. Ils sont plus enclins à y croire et à la partager. Lorsqu'ils arrivent au lycée, ils deviennent un peu plus cyniques et pourraient penser que toutes les informations sont biaisées et qu'il y a toujours un agenda derrière. Ce qui manque à tout ça, c'est la pensée critique.
Cette étudiante va désormais porter un regard beaucoup plus critique envers les réseaux sociaux.
Je sais maintenant faire la différence entre le vrai et le faux et faire plus attention.
Alan Miller, de l'ONG News Literacy Project.
Ce que nous voulons des élèves, c'est qu'ils puissent évaluer la crédibilité des informations qui circulent sur Internet.
Et cela semble marcher.
J'ai appris à vérifier les informations et les moyens de déceler des fausses informations à travers les titres en vérifiant s'il y a des éditeurs.
Des milliers d'enseignants utilisent le cours digital Checkologie aux États-Unis et dans 90 autres pays, permettant ainsi aux élèves de démêler le vrai du faux dans un océan d'informations.
Merci, Abdourahmandia. La police canadienne enquête sur le mobile d'une attaque à la camionnette dont le conducteur a foncé de manière délibérée dans la foule hier à Toronto, faisant 10 morts et 15 blessés. Le conducteur de la camionnette de location a été rapidement arrêté et identifié comme Alec Minassian, âgé de 25 ans et originaire de Richmond Hills, en banlieue nord de Toronto, selon la police. Il doit comparaître devant un tribunal aujourd'hui. Les autorités privilégient la thèse d'un acte isolé ne visant pas la sécurité nationale du Canada. Et puis, l'élimination du plus haut responsable politique rebelle au Yémen est un sérieux réveil pour les Houthis et signifie que l'Arabie saoudite, qui les combat depuis 2015, reste fermement décidé à privilégier une solution militaire, estiment les experts. Saleh al-Samad, chef du conseil politique de la rébellion, l'équivalent du président des territoires contrôlés par les Houthis, est tombé en partie avec 6 compagnons le 19 avril lors d'une frappe de la coalition sous commandement saoudien. Et les rebelles ont promis de venger sa mort. Jean-Roger Billon, fin de ce journal.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.